Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau rendez-vous de Wagon Livre, ce soir sur Radion, Wagon Livre, votre émission littéraire, chaque mercredi de 21h à 22h. Ce soir, rencontre avec le dessinateur de bande dessinée Jules. Jules, connu pour les deux premiers tomes de sa trilogie Silex on the City, paru aux éditions d'Argo. J'avais rencontré Jules au mois de septembre l'année dernière lors du salon Livres en Vigne qui se tenait au château du Clos de Vougeot. C'est un entretien qui a été réalisé en voiture. Voici donc Jules ce soir sur Radion.
Alors oui, moi peut-être que je suis hyper connu parce que j'ai plein de casquettes. C'est-à-dire que à la fois je suis dessinateur de presse dans pas mal de journaux. Je travaille aussi à la télévision avec des dessins en direct dans une émission sur France 5.
Qui s'appelle mais,
La Grande Librairie, voilà, une émission littéraire. Et puis surtout en fait depuis quelques années, depuis 2005 où j'avais sorti un premier album qui s'appelait Il faut tuer José Bové. Je sors régulièrement des albums de bande dessinée et pour la première fois depuis deux ans, je me suis lancé dans une série au long cours qui s'appelle Silex and the City, une espèce de fresque préhistorique en peau de bête, un péplum paléolithique. Et là vient de sortir le deuxième tome, ce qui explique que voilà, je ne chôme pas, fidèle à la tradition de l'Homo Faber. Qui a été commencé en moins 40 000.
Revenons un petit peu sur votre travail, notamment donc le tome 2 de Silex and the City, qui a pour sous-titre « Réduction du temps de trouvaille ». On peut dire, vous, effectivement, que vous ne réduisez pas votre temps de trouvaille. Vous êtes toujours à l'affût, vous jouez avec les mots ne vous manquent pas.
Non, et puis c'est vrai que mon type d'humour joue énormément sur le décalage, sur l'absurde, sur les références, ce qui fait qu'en fait justement ce jeu sur les mots et ces espèces de transpositions comme ça est très important. J'ai pas un style avec une maestria fantastique de dessin comme peuvent l'avoir Moebius, Bilal, des dessinateurs comme ça. Je fais vraiment partie de cette famille de dessinateurs d'humour qui ont une série de personnages avec des yeux en boule de loto, des gros nez, des bouches un petit peu ouvertes comme quand on joue quand on est petit aux marionnettes avec un camp de toilette dans son bain. C'est ce style-là qui est assez simple, finalement, qui est en osmose avec un humour peut-être un peu élaboré et plus référentiel, voilà, au niveau du langage.
Mais il y a beaucoup de clins d'œil, vous le disiez, des clins d'œil, des parodies, notamment Astérix, parce que au tout début, la première page, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution, qui rappelle bien sûr la résistance du village gaulois face aux Romains.
C'est sûr que l'influence de Goscinny, depuis que je suis petit, sur moi, et puis d'ailleurs sur toute une génération de dessinateurs et de scénaristes, est prépondérante, parce que c'est quelqu'un d'évidemment génial qui a fait les plus grandes avancées, voilà, en termes de bande dessinée au XXe siècle. C'est un auteur immense. Et donc, évidemment, c'était rigolo de faire ce clin d'œil-là. D'autant plus que le procédé est voisin, dans la mesure où Astérix parlait de la France du général de Gaulle habillé en gaulois et en romain. Moi, je parle de la France obscurantiste sarkozyste du fond de la pénombre des cavernes.
Et vous ne ménagez pas à l'époque Sarkozy.
En fait, d'habitude, enfin, j'avais pris l'habitude d'utiliser vraiment des choses tout à fait contemporaines dans mes bandes dessinées, de mettre en scène des personnages existants. Là, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on voit pas apparaître stricto sensu Sarkozy ou d'autres personnages réels.
Son fils,
c'est quelqu'un qui ressemble à son fils vaguement, mais c'est-à-dire que ça pourrait être n'importe qui. C'est-à-dire, c'est l'archétype du fils à papa, oui, du miné avec la mini vague qui a hérité. En l'occurrence,
qui s'appelle Raon de la Pétaudière, avec son crocodile apprivoisé qui s'appelle Lacoste.
Voilà, il a un crocodile qu'il a dressé qui s'appelle Lacoste, qui parade dans les beaux quartiers. Son père c'est Crao de la Pétaudière. Alors Crao de la Pétaudière c'est le patron d'EDF.
Ah oui.
EDF, énergie du feu, le volcan qui irrigue en feu toute la vallée, qui vient d'être privatisé. Et donc cette famille d'Aristo-Sapiens est un petit peu la mainmise. Alors c'est sûr que c'est problématique de lutte des classes, de confrontation de différentes cultures et sociétés. C'est aussi également la même chose pour les professeurs, le couple de professeurs que je mets en scène qui sont profs en ZEP, c'est les zones d'évolution prioritaires, et qui ont des classes complètement hétérogènes avec des Néandertals, des Cro-Magnons, des cannibales, il y a même des amphibiens qu'on énormément redoublé. Et voilà, cette problématique-là de cohabitation de différentes individualités, c'est quelque chose d'éternel. Aujourd'hui, entre les riches et les pauvres, les banlieues et les centres-villes, entre la province et Paris, il y a tout ça, toujours ces espèces de chocs des cultures. Mais ça devait être le cas de la même façon du côté des Aisies, de Lascaux ou de la Grotte Chauvet à l'époque.
C'est que les personnages connaissent, pour utiliser un terme de linguistique, ils connaissent, ils ont le signifiant, mais le signifié n'est pas encore là. Par exemple, ils évoquent un très grand nombre d'objets qui vont être créés, mais ils en ont déjà le nom, le terme. Donc le décalage, bien évidemment, les anachronismes génèrent énormément l'humour. On est tordu de rire.
Voilà, par exemple, tout le monde a sa théorie, hein, tout le monde a sa, comme aujourd'hui d'ailleurs, tout le monde a sa petite théorie sur l'hypothèse de la disparition des dinosaures.
Ah oui, alors.
Alors le tome 2 commence sur un débat où la mère de famille dit, tu sais, on sait très bien pourquoi les dinosaures ont disparu, c'est s'ils avaient mangé 5 fruits et légumes par jour, ils n'auraient pas disparu. Et l'autre dit, oui, enfin 5 fruits et légumes, tu voudrais pas qu'on invente non plus l'agriculture. Voilà, typiquement, ce genre d'horizon-là, je le déforme tout le temps, et ils sont toujours un peu en retard ou en avance d'une découverte, et qui n'arrivent de toute façon jamais à mettre en œuvre. C'est aussi le cas pour blog.com, le père de famille qui, dans ce tome 2, abandonne l'éducation nationale pour bosser dans le privé. C'est une boîte de com qui s'appelle Désir d'Avenir, et on lui dit, voilà, vous allez être chargé d'un dossier complètement précurseur, c'est la promotion du monothéisme. Alors évidemment, il ne sait pas du tout ce que c'est, mais il va s'atteler au dossier, et puis ça, évidemment, ça va encore se traduire, comme d'habitude avec ce garçon qui n'est pas très très doué, par un fiasco retentissant.
Et il va être condamné à rester dans l'éducation.
Ou en tout cas, voilà, il va être tenté par un retour. Et en même temps, il dit, oh, quand même, c'est difficile parce que j'ai pris goût à la vie sauvage. La vie sauvage, c'est la vraie sauvagerie. Il se rend compte que c'est la vie de bureau.
Et l'absurde est omniprésent parce que, par exemple, c'est son beau-père ou son père qui est bibliothécaire dans un
voilà,
collège,
alors il s'embête,
alors
il est,
que
l'écriture
voilà, n'a pas été inventée.
Parce que c'est, il y a plein de boulot embêtant dans la vie. Parfois, je pense que les bibliothécaires dans les collèges parfois doivent trouver un peu le temps long, en tout cas dans certains collèges. Mais alors, avant l'invention de l'écriture, c'est encore plus long, quoi. De même que les alter-darwinistes, qui sont vraiment radicaux sur l'évolution en visage humain, décident de mener une campagne de dégonflage des pneus de voiture. Mais avant, ils sont obligés d'inventer la roue et d'inventer les voitures. Alors c'est un programme très très ambitieux.
Bien sûr, il y a un très grand nombre de jeux de mots. C'est un des personnages qui doit régler une séance de massage, hein, auprès de son kinésithérapeute. Et elle lui dit « Je vous fais un chèque ». Et lui, le kinésithérapeute, « J'aime autant, les espèces sont en voie de disparition ».
Voilà, je ne me suis pas interdit justement ce genre de blague. À la fois avoir des références à des choses vraiment de hors culture d'une certaine façon, des blagues sur Lacan, des blagues sur la philosophie, mais en même temps aussi des détournements comme ça de formules toutes faites, ou bien même de publicité. À un moment, il y a un ambassadeur qui donne une réception dans sa grotte, et puis il y a de la rocaille partout qui traîne parmi les stalactites, et puis la fille dit oui, il y a toujours beaucoup de rochers aux réceptions de l'ambassadeur. Bon. Les amateurs de publicité de Ferrero Roche d'Or reconnaissent le slogan, mais je suis pas sûr qu'effectivement tout le monde le voit au premier coup d'œil, et à la rigueur, peu importe. C'est-à-dire que pour moi, ce qui importe, c'est qu'il y ait plein de niveaux de lecture dans une bande dessinée et que les gags, les clins d'œil ne soient pas un frein finalement à la lecture narrative stricto sensu de la BD. Donc voilà, on peut le lire à plusieurs âges différents, avec plusieurs degrés de référence, et c'est d'autant plus, je pense, riche et amusant.
Oui, alors les homonymies sont source de rigolade, hein. Vous parlez de l'insoutenable légèreté du être.
Oui, alors ça, c'était un peu facile. Mais c'est parce que comme il est prof de chasse, il explique comment on confectionne des arcs et des flèches. Et il dit, voilà, il faut utiliser privilégier le boulot plutôt que le être, parce que l'insoutenable légèreté du être fait qu'on ne pourrait jamais, pour la chasse au mammouth, utiliser ça. Et puis l'autre, il dit, oui, du boulot, mais on n'en trouve plus depuis longtemps dans cette vallée. Bon, enfin, évidemment, c'est l'esprit de collège, puisque ça, c'est encore les élèves de 4e de collège de la grotte Françoise Dolto qui sont turbulents.
Et qui ont un professeur qui est le petit prince. Alors en plus, vous avez osé toucher au petit prince, Jules. Mon Dieu, vous êtes iconoclaste.
Voilà, mais c'est-à-dire que j'ai souvent utilisé dans mes albums de bande dessinée le petit prince.
Qui vient donc du collège Saint-Exupéry.
Voilà, qui supporte en général les pires sévices, parce que c'est un peu la vision de la pureté, de la candeur, d'une espèce de sagesse universelle. Et c'est toujours marrant qu'ils se prennent des coups de gourdin sur la tête. Il y a un autre album que j'avais fait où en fait il y avait le petit prince qui se faisait sadiser dans une pension privée par le jeune Mozart et le jeune Harry Potter, en fait, et le jeune Titeuf. Voilà, c'était trois, Titeuf, Mozart et Harry Potter, qui chopaient le petit prince comme ça et puis qui lui dessinaient un mouton sur le cul.
Tu
prendre des vessies pour des cavernes. Il y a ceux qui ont fait Sciences Po, forcément. Et puis, les femmes ont toujours du mal dans les réceptions à savoir où elles peuvent déposer leurs vêtements, leur fourrure.
Et voilà, donc, parce que tout le monde est habillé, évidemment, en peau de bête. Savoir ce qu'on peut en faire, justement, quand il fait très chaud ou quoi. C'est des éternels problèmes de peau des jeunes filles ne sont toujours pas réglés, même à l'époque.
Bon. Mais on dira, Jules, et c'est vous qui le dites, il faut bien que Genèse se passe.
Voilà, parce que bon, tout ça est bien, bien compliqué. Dès que l'homo est erectus, les problèmes commencent.
Alors, ce regard acerbe sur notre société, vous jubilez forcément et vous y donnez férocement. Parce que, par exemple, sur le monde du foot, vous êtes extrêmement moqueur. Alors là, on rigole énormément.
Oui, pour la première fois, là, j'ai traité vraiment de pas mal de chapitres autour du sport. Et là, il y a un grand match qui a lieu. C'est PSG-OM, Primat Saint-Germain contre Olympique Mammouth. Bon, il y a un petit peu l'OL qui est laissé de côté. C'est l'Olympique Lémurien, parce qu'ils veulent jouer qu'en nocturne. Parce que c'est pas des animaux diurnes, donc ça complique un petit peu pour le championnat. Oui, et puis c'est rigolo, parce qu'on voit... l'extrême violence et la sauvagerie des stades aujourd'hui, on se dit que l'évolution n'est pas tellement passée par là, donc c'était drôle de remettre en scène ces grandes compétitions sportives.
Et vous abordez le problème de la tolérance, de l'acceptation de l'autre et les folies du monde du football, notamment un des responsables et des dirigeants du club, on lui dit mais vous allez engager un hominidé, et il a cette réplique qui bien sûr rappelle celle d'un homme politique bien connu. Un hominidé, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que c'est un problème.
Bah oui, parce que c'est, voilà, les questions de racisme, on ne les aborde jamais aussi bien qu'en inversant les choses, puisqu'on est toujours l'étranger de quelqu'un. Et donc finalement, de se rendre compte qu'en tant qu'hominidé, bah, on pourrait très bien être discriminé par les primates ou par les amphibiens ou les reptiles, ça remet les choses un petit peu à leur place. Et ça permet de, plutôt que de dénoncer, je dirais, de manière directe, un comportement, comme on peut le faire souvent, et que comme l'indignation souvent pousse à le faire, finalement, est-ce que ce ne serait pas plus pédagogique d'utiliser ce paradoxe-là qui ferait peut-être vraiment réfléchir les gens plutôt que les prendre à rebousse-poil?
Alors, l'actualité est présente. Il y a bien sûr toujours des clins d'œil, des rappels, notamment le but de la main de Henri, enfin, qui apparaît quand même.
Ah oui, parce qu'en fait, au Primat Saint-Germain, il marque les buts avec les mains, mais c'est pas un problème pour les arbitres parce que tout le monde est quadrumane.
Concernant cette férocité, sur le regard que vous portez sur notre société, donc en la transposant dans l'univers préhistorique, vos personnages, vous le disiez, dans leur description, dans le trait, dans le dessin, sont tous un peu ridicules. Et vous montrez quelque part le grotesque de leur existence. Ils sont tous en attente. Alors, il y a en attendant Godot, chez vous, ils attendent l'évolution, ils attendent le progrès. Mais pour en faire quoi ?
Bon, ils sont un petit peu effectivement attentistes. Il y en a deux, trois qui essaient de prendre des initiatives. Et en fait, c'est là où tout dérape. Finalement, je pense qu'il y a une certaine sagesse presque taoïste de l'homo sapiens de base qui est assis devant sa grotte en attendant que le feu lui vienne tout cuit dans la bouche. Ça décrit un état d'esprit général et probablement le mien propre. C'est-à-dire que dans chacun des personnages, dans chacune de leur turpitude et de leur bassesse, je me retrouve d'une certaine façon. C'est une façon de mettre en scène différents aspects de sa propre personnalité. C'est une confession et une psychanalyse à la fois, mais ça, les lecteurs ne le sentent pas trop, j'espère.
Les étoiles.
Oui, parce qu'elle, elle est... Enfin, c'est pas Ségolène Royal, c'est un personnage qui lui ressemble légèrement, mais qui est quand même l'inventeur. C'est une concept designeuse, en fait, elle est, c'est l'inventeur de la darwinitude et de l'évolution participative, qui sont des concepts qui n'ont pas eu tellement de postérité.
Et par exemple, Darwin Guetta.
Alors, je voulais l'envoyer à David Guetta, oui. Darwin Guetta, c'est le grand DJ du Quaternaire. Mais finalement, en fait. Parfois, j'avais aussi dépeint Yann Arthus Bertrand ou des gens comme ça par le passé. De façon générale, les gens, quand ils se retrouvent mis en scène dans une bande dessinée, même quand ça peut être parfois un petit peu sarcastique et grinçant, trouvent ça plutôt rigolo. Je pense que, de toute façon, ce qui est bizarre, c'est, moi je le constate avec le dessin de presse, les gens, dès qu'on parle d'eux, en bien ou en mal, ils sont contents. On se rend compte que dans une ère de communication, le paradoxe, c'est que tout le monde veut même être insulté, mais au moins exister, hein, et être nommé et être représenté. Alors voilà, nous on en profite, hein, les dessinateurs.
Il y a eu quand même beaucoup de débats en France entre la sphère politique, la surveillance éventuelle de certains journaux. Vous avez toujours l'impression qu'il y a une liberté de ton en France, où vous avez l'impression que ça se dégrade, même si vous dites que les personnes qui figurent dans des dessins sarcastiques, moqueurs ou valorisants sont toujours heureux. Mais vous avez l'impression que la liberté d'expression est parfois un peu attaquée ?
Par rapport aux autres pays, par rapport aux autres types de situations qu'on peut observer, la France est vraiment un paradis pour les dessinateurs et pour les humoristes. On a quand même une liberté d'action qui est énorme. Souvent en dessin d'ailleurs, on peut aller beaucoup plus loin que des humoristes, je dirais, qui font des sketchs, qui soient à la radio ou sur scène. Le dessin, parce qu'il y a déjà finalement une transposition, un second degré inhérent juste au fait que ce soit du dessin et pas du verbe ou de l'écrit, fait qu'on peut aller plus loin et que c'est toléré. Cela dit, effectivement, il y a des thèmes qui étaient plus facilement traitables il y a quelques années et qui aujourd'hui sont explosifs. La religion, le Moyen-Orient, Israël, même la pédophilie, les choses comme ça, l'humour noir de réserve ou des proches passe pas exactement de la même façon. Alors c'est normal, la société a évolué. Ceci dit, il faut pas que, en gros, les censeurs s'en emparent pour bâtir davantage encore de murs. Voilà, parce que finalement c'est le signe aussi que le dessin est de plus en plus, et la caricature, la satire est de plus en plus répandue dans la société, ce qui fait que ça touche des gens que ça touchait absolument pas auparavant. C'est-à-dire que les gens, ils soupçonnaient même pas qu'on puisse clouer Jésus à l'envers sur une croix pour faire un gag, alors que maintenant en fait ça arrive à eux parce qu'il y a les mass médias, parce que à la télévision ou dans les journaux qui sont extrêmement diffusés, eux ils sont amenés à découvrir ça. Donc voilà, je pense que c'est un problème de contexte. Le contexte a changé, mais franchement, moi je m'estime relativement heureux en tant que dessinateur dans la situation dans laquelle je suis.
Dans la nuit qui sommeille, je parais, et les chiens enragent et se dressent, comme le fou qui ne tient plus la laisse. Dans leurs yeux, je ne vois plus le temps. Sur leurs os, de mes froides caresses, je les vois regretter mes faiblesses. Au creux de nos mains, les chiens mangent les chiens. Mais les chiens enragés se dispersent, comme le matin les glaces et les bercent, et qu'ils prient pour ne plus nous revoir. Mais les chiens sont des hommes abîmés par des guerres qu'ils n'ont pas su gagner, par des trains qui ne s'arrêtent jamais. Au creux de nos mains, les chiens mangent les chiens. Au creux de nos mains, les chiens mangent les chiens.
C'est sûr que je commence déjà à avoir des idées, donc il y aura un tome 3 probablement. Et puis en plus, il y a une boîte de production qui est vraiment formidable, qui a acheté les droits de la bande dessinée pour en faire un dessin animé. Donc on commence à travailler déjà là, sur l'adaptation graphique. Donc ça va faire un gros chantier. On ne sait pas exactement où est-ce que ça va nous mener, mais tout le monde plutôt content. On va voir. En tout cas, je garde la tête encore au fond de la grotte.
Là, au moment où nous réalisons cet entretien pour Radion, on vous conduit à Dijon. Vos impressions...
On a inventé la roue exprès hein, pour cet entretien, de manière à pouvoir le faire en voiture.
Indispensable. Jules, vos impressions sur la troisième édition de ce salon Livre en Vigne, organisé par Evelyne Philippe et un très grand nombre de partenaires et un très grand nombre de sponsors importants. C'est la première fois que vous veniez à ce salon ?
Oui, puis c'était même la première fois que je venais même dans la région. Hein. C'était une très bonne surprise. Au départ, je suis arrivé, on est arrivé sous une pluie battante. Je me suis dit, ça va être le château hanté de la famille Adams. Il n'y aura personne. Effectivement, au départ, c'était assez désert. Et puis petit à petit, ça s'est tout d'un coup rempli très très vite. Et on s'est bien amusés tous. C'était d'ailleurs assez sympa de rencontrer des auteurs très différents. C'était pas du tout axé sur la bande dessinée. Je devais être quasiment un des seuls. On était très peu à venir du dessin. Et moi, c'est ce qui m'intéresse finalement, c'est de rencontrer des gens variés plutôt que retrouver les sempiternels dessinateurs que je connais. Et là, pour le coup, c'était voilà vraiment un des échanges intéressants. Et par ailleurs, j'ai remarqué que la vaisselle du Clos Vougeot était tellement belle que tout le monde avait envie de voler les tasses à café et les petites assiettes dans lesquelles on mangeait. J'ai pas réussi à en voler suffisamment, donc je vais pas pouvoir organiser un grand mariage à mon retour à Paris.
Yeah.
Non, non, bah là, c'était une découverte. Je la connaissais théoriquement très bien parce que j'avais fait des études d'histoire et de géographie. Et puis, la Bourgogne, évidemment, joue un rôle prépondérant dans la géographie française en particulier. Donc, à la rigueur, je connaissais sur les cartes. J'aurais pu dessiner la côte et les villages. Mais c'est vrai que le voir en vrai, c'est très différent. Et d'ailleurs, Au début, j'étais un petit peu inquiet parce que la route de Dijon à Clovougeot, c'est une énorme ZAC où il y a que des espèces de pubs pour les bricodépôts, halo chaussures et genre de choses comme ça. Je me suis dit, oh là là, bon sang, mais où est-ce qu'on est? J'ai trouvé ça très postmoderne. Et puis au bout d'un moment, quand même, le vignoble apparaît et en plus en pleine vendange avec tout le monde qui travaille à l'intérieur. Et là, c'est évidemment bien plus émouvant que Speedy les pros du pot ou Carglass remplace Carglass répare, quoi.
Que lisez-vous, Jules? Beaucoup de bandes dessinées des confrères, des romans, des essais, la presse?
Bah, je suis un gros lecteur, donc je dévore un petit peu tout. Je lis la presse la plus variée possible, aussi bien des choses pointues pour lesquelles je travaille ou pas d'ailleurs. Enfin, ça peut aller, ça va des échos à Point de vue Image du Monde. Donc c'est assez vaste. Mais parce que je tire mon inspiration de tout ça, ainsi que de la télévision, du cinéma. Tout est bon en fait à recycler. Donc ça, pour le travail, je récupère tout ce qui m'environne. En revanche, voilà, pour le plaisir, moi je suis un grand lecteur de romans et d'autant plus qu'il y a de plus en plus de traductions absolument passionnantes de choses qui se font hors de France. Donc je découvre régulièrement des auteurs qui m'enthousiasment, ce qui est assez sympa.
Alors, votre dernier coup de cœur?
En fait, j'ai découvert tardivement, hein, parce que c'est un immense auteur, Amos Oz, que je connaissais pas, et j'ai lu alors Seul la mer, que je conseille à tout le monde, qui est un magnifique roman très étrange, qui est une vraie vision différente et profonde de la société israélienne telle qu'elle est aujourd'hui.
Sur Radion, nous passons beaucoup de musique et beaucoup de chansons. Quels sont vos goûts musicaux?
Oh, bah, ils sont assez éclectiques aussi, hein. C'est-à-dire que je peux être à la fois midinette, mettre de la variété de base le matin pour me réveiller. Et puis, en ce moment, depuis un an à peu près, j'ai une espèce de passion particulière pour la samba originale et notamment tous les enregistrements de concerts de Vinicius de Moraes, Toquinho ou Betania, qui sont bon, des grands chanteurs de bossa nova et de samba. Donc j'enjoins tous les auditeurs à récupérer sur internet ou chercher dans les médiathèques, parce que le problème c'est qu'on ne trouve pas forcément toujours ces disques-là, à prêter l'oreille à tout ça, c'est vraiment formidable.
Écoutez Jules, merci à vous d'avoir accepté cet entretien en voiture au moment où on va vous déposer à la gare de Dijon pour aller...
Si l'entretien s'arrête dans un grand fracas, ça veut dire qu'on aurait eu un accident, donc vous pourrez penser à nous.
On ne peut qu'inviter donc les auditeurs de Radion à découvrir cette saga préhistorique, les aventures de la famille Dotcom ainsi que les amis et voisins, donc les deux tomes de Silex and the City. Et le tome 2, le plus récent, intitulé « Réduction du temps de trouvaille ». Merci Jules.
Merci.
Wagon Livre touche à sa fin. Merci d'avoir suivi cet entretien avec Jules. Il a été longuement question donc de ses deux albums Silex and the City, tome 1 et tome 2, disponibles aux éditions d'Argo. Jules rencontré donc lors du salon du livre Livres en Vigne qui se tenait au château de Clovougeot en septembre de l'an dernier. Puisqu'il est question de bande dessinée, je souhaiterais vous rappeler que le samedi 19 février prochain, de 11 à 12 et de 14h à 17h30, est organisée une dédicace à la librairie La Pieuvre, 53 rue du Pont. Michel Lourenceau dédicacera ses deux albums, Flotty 66 et Escadrille Normandie-Niemen, c'est le 19 février, à la librairie La Pieuvre, donc à Auxerre. D'autres rendez-vous et manifestations autour du livre dans les jours à venir, d'abord à la ferme de la Fosse d'Yonne à Tonnerre, le vendredi 11 février, Véronique Bedin et Julien Fédy liront des extraits de leur livre « La Bourgogne dans les beaux textes ». Inscription et renseignements au 03 86 55 03 82 03 86 55 03 82. Je signale également un rendez-vous qui est donné par la bibliothèque municipale d'Auxerre et notamment le mercredi 16 février à 10h30, l'heure du conte musical autour de Zlatel la chèvre de Isaac Bashevis Singer pour découvrir la musique yiddish. C'est une animation destinée au jeune public à partir de 5 ans et cette animation aura lieu à la bibliothèque annexe Saint-Siméon. L'entrée est libre. Je n'oublie surtout pas de mentionner Vendredi 11 février à 19h30 au marché couvert d'Avallon, une soirée surprise avec Jean-Pierre Mariel à l'occasion de la parution du livre du comédien chez Kalman Levy, livre intitulé « Le grand n'importe quoi ». C'est donc au marché couvert d'Avallon. C'est une soirée organisée par le Rotary Club d'Avallon-Vézelay au profit d'un institut de recherche et de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Nous serons le 16 février et je vous proposerai un entretien avec le chanteur et romancier Joseph Danvers autour de son polar « La nuit ne viendra jamais » paru aux éditions Latengo. Je vous laisse en compagnie du programme musical de Radion. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée et une bonne nuit. Merci de votre fidélité. Au revoir. We'll be right back.